Marinus Blicknell Willett n'a jamais cru, fût-ce espéré un instant, que son aventure serait prise au sérieux, sauf peut-être par certains amis fidèles, et il ne s'aventura pas à la raconter en dehors du cercle des intimes. Quelques personnes moins proches en ont entendu parler, la plupart ont conclu en ricanant que le bon docteur se faisait un peu vieux. On lui conseilla de prendre quelques vacances et d'éviter dorénavant de s'occuper des fous. Mais M. Ward sait que son vieux médecin n'a dit que l'effroyable vérité. N'a-t-il pas vu, de ses yeux vus, l'ouverture puante dans la cave du bungalow? Willett ne l'a-t-il pas renvoyé chez lui, épuisé et nauséeux à 11 heures du matin? N'a-t-il pas tenté de le joindre en vain par téléphone le soir même et encore le lendemain? Et ne s'est-il pas rendu au bungalow à midi le jour suivant pour trouver son ami étendu, sans conscience, sur un des lits du premier étage? Il respirait lourdement et avait ouvert lentement les yeux comme M. Ward lui faisait boire un peu de cognac qu'il avait toujours dans sa voiture. Il s'était mis à trembler et à hurler. « Cette barbe, ces yeux, Seigneur, qui êtes-vous » Une chose bien étrange à dire à un monsieur rasé de près, aux yeux bleus et clairs, qu'il connaissait depuis l'enfance. À midi, en plein soleil, tout semblait inchangé au bungalow depuis la veille. Mis à part quelques taches et traces d'usure aux genoux, les vêtements de Willett n'étaient pas en désordre, et seule une vague odeur âcre rappela à M. Ward celle qu'il avait sentie sur son fils le jour de son internement. La lampe torche du docteur avait disparu, mais sa valise était bien là, aussi vite cependant qu'il l'avait apportée. Avant de se lancer dans des explications, Willett se leva, apparemment non sans effort, descendit à la cave en titubant et essaya de faire pivoter la plateforme devant l'écuvier. Elle ne bougea pas. Il revint à l'endroit où il avait laissé sa trousse à outils la veille, prit un ciseau et commença à démonter les planches une à une. Il aperçut la surface bétonnée en dessous, mais l'ouverture avait disparu. Plus de gouffre puant pour rendre malade le père de Charles qui, abasourdi, l'avait suivi en bas. Rien que le béton sous les planches, plus de salles nauséabondes, plus d'horreurs souterraines, plus de bibliothèques secrètes ni de manuscrits, plus de puits cauchemardesques, ni de puanteurs, ni de hurlements, plus de laboratoires, de rayonnages, de formules gravées, plus de... Le docteur Willett pâlit brusquement et demanda doucement à son compagnon en le saisissant. « Hier, tu as vu, tu as senti !» Quand M. Ward, transi de stupeur et d'effroi, trouva la force de hocher affirmativement la tête, le médecin émit un son entre le soupir et le halètement et hocha à son tour en murmurant « Alors je vais tout te raconter ». Pendant une heure environ, dans la chambre la plus claire qu'ils purent trouver en haut, le médecin raconta à voix basse son épouvantable histoire au père effaré. Arrivé à l'apparition de cette forme dans la fumée verte qui s'élevait au-dessus du Kylix, il avait un trou de mémoire et il était trop fatigué pour se demander ce qui avait bien pu arriver. Souvent, les deux hommes hochèrent machinalement la tête pour partager leur perplexité et M. Ward se risqua à demander « Penses-tu que ce serait utile de creuser ?» Le docteur ne répondit rien, car il est dérisoire pour l'esprit humain de hasarder une explication lorsque des puissances de mondes inconnus ont empiété sur notre versant du grand abîme. M. Ward demanda encore « Mais où est-elle allée ? Elle t'a ramené ici, tu sais, et d'une manière ou d'une autre, elle a bouché le trou. » Willett laissa encore le silence répondre à sa place. Mais tout n'était pas terminé. En cherchant son mouchoir dans sa poche avant de partir, Willett referma les doigts sur un morceau de papier qui se trouvait avec les bougies et les allumettes qu'il avait prises dans le souterrain, mais qui n'y était pas avant. C'était un simple morceau de papier arraché au carnet trouvé dans cette chambre des horreurs sur lequel quelques mots avaient été griffonnés au crayon, sans doute celui qui se trouvait à côté du carnet. Il était plié très grossièrement et, mis à part l'odeur âcre de la pièce souterraine, ne portait aucune marque d'un monde autre que le nôtre. Mais le texte sentait, ou plutôt puait le mystère, car son écriture était celle d'une époque malsaine, une sorte de gothique médiéval et torturé, à peine déchiffrable, malgré quelques combinaisons de symboles vaguement familières. Le mystère de ce message rendit leur détermination aux deux hommes qui se dirigèrent calmement vers la voiture. M. Ward donna des ordres pour être conduit d'abord dans un restaurant tranquille, puis à la bibliothèque John Hill. Là-bas, il ne fut pas difficile de trouver de bons traités de paléographie que les deux amis compulsèrent jusqu'au soir lorsque l'on alluma le grand lustre. L'écriture n'était pas une invention étrange, mais bien celle, tout à fait normale, d'une période très obscure. C'était des minuscules saxonnes du 8e ou du 9e siècle, d'époque chaotique où, sous le vernis encore frais du christianisme, des croyances et des rites ancestraux vivaient encore secrètement, où la pâle lune bretonne observait des cérémonies étranges dans les ruines romaines de Caerleon et de Hexham, ou près des tours qui bordaient le mur délabré d'Adrien. Le message était dans ce latin vulgaire que l'on pratiquait encore à cette époque barbare. Corvinus necandus est, cadaver aqua forti dissoluendum nec aliquid retinendum, tace ut potes. Ce qui signifie à peu près « Curven doit être tué, son cadavre doit être dissous dans l'eau forte et rien ne doit en être conservé. Gardez le silence si vous le pouvez. » Monsieur Ward et le docteur Willett étaient confondus et sans voix, constatant qu'il leur manquait pour réagir certaines émotions qu'ils pensaient devoir vaguement ressentir. Chez Willett, en tout cas, la capacité de réaction à de nouvelles horreurs était épuisée. Les deux hommes restèrent assis là, impassibles et désarmés jusqu'à la fermeture de la bibliothèque qui les força à quitter les lieux. Ils roulèrent machinalement jusqu'à la résidence de Prospect Street, et parlèrent de tout et de rien durant la nuit. Au matin, le docteur se reposa, mais ne rentra pas chez lui. Il était toujours là le dimanche midi lorsque les détectives qui étaient chargés d'enquêter sur le docteur Allen téléphonèrent. M. Ward, qui déambulait de long en large, encore en robe de chambre, répondit en personne et, apprenant que le rapport était presque prêt, les convoqua de bonne heure le lendemain. Avec Willett, ils se réjouirent de voir peut-être l'énigme s'éclaircir, car quel que soit l'auteur du message en latin, il semblait évident que le Curven à éliminer n'était autre que l'étrange barbu aux lunettes noires. Charles redoutait cet homme et avait bien dit dans sa lettre désespérée qu'il fallait l'éliminer et dissoudre son cadavre dans l'acide. En outre, Allen recevait des lettres adressées par d'étranges sorciers d'Europe à Joseph Curven et se considérait comme la réincarnation du défunt nécromancien. Et à présent, voici que d'une nouvelle source inconnue, un message leur était parvenu demandant également que Curven soit tué et son corps dissous dans l'acide. Tout cela ne pouvait être le fruit d'une coïncidence. Sans oublier que sur les conseils de celui qui se faisait passer pour Hutchinson, Allen projetait de se débarrasser du jeune Charles. La lettre ne lui était jamais parvenue, mais de son contenu, on déduisait facilement qu'il s'apprêtait déjà à le faire, s'étant plaint de la sensiblerie grandissante du jeune homme. Sans le moindre doute, Allen devait être appréhendé, et si l'on n'appliquait pas les mesures les plus définitives, il devait en tout cas être incarcéré et mis hors d'état de nuire. Espérant contre toute attente tirer quelques bribes d'informations sur ce mystère de la part de la seule personne à même d'en donner, le père et le médecin descendirent jusqu'à la baie dans l'après-midi pour rendre visite à Charles Ward dans sa clinique. Simplement, mais gravement, Willett lui raconta ce qui était arrivé, remarquant qu'à mesure qu'il avançait dans son récit et dans la découverte de la vérité, Charles devenait de plus en plus pâle. Le médecin utilisa les effets les plus dramatiques, guettant une réaction de la part du jeune homme lorsqu'il aborda la question des puits et de leurs innommables occupants. Mais Ward ne scia pas. Willett fit une pause, puis d'un ton indigné se mit à parler de ces pauvres créatures qui mouraient de faim. Il reprocha à Charles son inhumanité et tressaillit quand il reçut pour seule réponse un rire sardonique, car Charles, bien qu'il ne nia plus à présent l'existence de la crypte, semblait prendre l'affaire pour une farce sinistre dont il s'amusait en gloussant bruyamment. Puis d'un ton effrayant que sa voix cassée accentuait encore, il chuchota.
« La peste soit de ces créatures. Ils mangent, certes, mais ils n'en ont point besoin. C'est là la beauté de la chose. Un mois sans nourriture, dites-vous. Par Dieu, monsieur, vous voyez petit, savez-vous que nous avons bien ri du pauvre vieux Whipple avec ses fanfaronnades. Ne voulait-il pas tout éliminer ? Mais sacristi, monsieur, il était à moitié sourd avec tout le bruit et n'a jamais vu ni entendu les puits. Il n'a même pas soupçonné leur existence. Le diable vous emporte. Ces maudites créatures sont là depuis que Kerven a trépassé, il y a 150 ans. »
Willett n'en obtint pas davantage. Horrifié, convaincu malgré lui, il poursuivit son histoire, espérant que quelque anecdote étonnerait son auditeur et lui ferait abandonner ce calme imperturbable qui l'affectait. En observant le visage du jeune homme, le médecin ne put s'empêcher de ressentir une sorte de terreur en se remémorant les changements qu'il avait subis au cours des derniers mois. Véritablement, ce garçon avait fait descendre du ciel des horreurs innommables. Quand Willett en arriva à la salle au mur gravé de formules et à la poudre verte, Charles commença à montrer quelques signes de nervosité. Il prit un air amusé en apprenant ce que Willett avait trouvé dans le carnet et répondit simplement que ses notes étaient anciennes et d'aucune utilité à qui n'était pas sérieusement initié à l'histoire de la magie.
« Eussiez-vous, monsieur, su les mots pour faire surgir ce qui reposait dans l'urne, que vous ne seriez pas ici pour me le conter ? C'était le numéro 118. Et vous auriez tremblé, monsieur, eussiez-vous consulté ma liste dans l'autre chambre. Je ne l'ai jamais invoqué, quoique j'eusse l'intention de le faire ce jour où vous vintes m'inviter séant. »
Alors Willett parla de la formule qu'il avait récitée, puis de la fumée verdâtre qui s'était élevée. Et ce faisant, il vit pour la première fois la peur envahir le visage de Charles Ward.
« Il est venu, et vous seriez en vie. »
Comme il croassait littéralement ces mots, sa voix sembla presque exploser, libérée enfin de ses entraves pour sombrer dans les profondeurs d'une résonance impie. Dans un éclair d'inspiration, Willett pensa avoir compris la situation et glissa dans sa réponse un avertissement qu'il se rappelait avoir lu dans une lettre. « Numéro 118, dites-vous. » Mais n'oubliez pas que dans 9 cimetières sur 10, les pierres ont été changées et que vous ne pouvez avoir de certitude avant d'avoir interrogé la chose. » Puis tout à trac, il tira de sa poche le message en minuscule et le lui mit sous les yeux. Il n'aurait pu souhaiter réaction plus manifeste, car Charles s'évanouit aussitôt. Cet entretien avait évidemment été mené dans le plus grand secret, de peur que les psychiatres de la clinique n'accusent le père et le médecin de renforcer le délire d'un aliéné. Sans aucune aide, M. Ward et le docteur Willett relevèrent le jeune homme et le couchèrent sur le lit. En reprenant conscience, le patient marmonna quelques mots à propos d'un message qu'il fallait immédiatement envoyer à Horn et Hutchinson. Et quand il fut complètement revenu à lui, le docteur lui avoua qu'une de ces créatures étranges au moins était son ennemi juré et avait conseillé au docteur Allen de l'éliminer. Cette révélation fut sans effet, mais avant cela, les visiteurs avaient bien remarqué que le rôte avait déjà le regard d'un homme traqué. À partir de ce moment-là, il ne voulut plus rien dire. Willett et M. Ward décidèrent de se retirer, non sans le rappeler à la prudence vis-à-vis d'Allen, ce à quoi le jeune homme se borna à répondre dans un ricanement pénible que ce monsieur était sous contrôle et ne pourrait nuire à personne, même s'il le voulait. Ils ne s'inquiétèrent pas des lettres que Charles pourrait envoyer à ses deux complices en Europe, puisqu'aussi bien les autorités de la clinique saisissaient et censuraient tout son courrier et ne laisseraient rien passer qui puisse aggraver son délire. Plus tard, il y eut cependant une suite curieuse concernant Horn et Hutchinson, à supposer qu'il s'agisse bien de ces deux sorciers. Mû par un vague pressentiment, Willett se mit en rapport avec une agence de coupure de presse afin qu'elle lui envoie toutes les informations relatives aux crimes et aux accidents qui se produiraient à Prague et en Transylvanie orientale. Au bout de 6 mois, il pensa avoir repéré deux faits divers significatifs parmi la multitude d'articles qu'il avait reçus et fait traduire. Le premier relatait la destruction une nuit d'une maison située dans le vieux quartier de Prague et la disparition du vieillard malfaisant nommé Joseph Nadek qui y habitait depuis des temps immémoriaux. L'autre racontait une explosion gigantesque dans les montagnes de Transylvanie à l'est de Rakus et la destruction totale, avec tous ses occupants, de l'infâme château Ferengzi, dont le seigneur était si détesté par les paysans et les soldats qu'il aurait immanquablement fini par être convoqué pour interrogatoire à Bucarest si cet incident n'avait mis fin à une carrière si longue qu'elle dépassait toute mémoire d'homme. Willett pense que la main qui a écrit les minuscules saxonnes était capable de manier des armes terribles que, profitant de l'absence de Kerven, elle réussit à retrouver Horn et Hutchinson et à s'en occuper comme il convenait. Quant à ce qui leur est advenu, le docteur s'efforce de ne pas y penser.